En nous intéressant à l'univers dans lequel nous vivons, nous découvrons qu'il existe 250 milliards de galaxies, qui chacune d'entre elles compte environ 300 milliards d'étoiles. Chaque élément de ces magnifiques systèmes obéit à des lois et à un ordre particulier. La Terre n'occupe qu'une minuscule partie de ce vaste univers. Elle est elle-même régie par un système incomparable qui possède des équilibres parfaits et extrêmement délicats. Contrairement aux autres planètes, son atmosphère et sa surface sont viables. L'eau qui couvre la majeure partie de sa surface est l'un des éléments essentiels à la vie. Les températures, les propriétés orbitales et la nature du sol, tout démontre que la Terre a été conçue pour recevoir la vie. Notre planète abrite une vie incroyablement complexe et complète. Des millions d'espèces animales et végétales coexistent en parfaite harmonie, au point de survivre de manière totalement autonome. Mais d'où viennent ces systèmes et ces êtres dotés de vie? En examinant la vie sur Terre, on peut clairement voir que chaque être vivant est pourvu de systèmes complexes, lui permettant de jouer un rôle dans le système global, et qu'il les utilise de la façon la plus performante. Pour que la vie puisse être ainsi planifiée, conçue et organisée, elle a nécessairement un créateur. Et ce créateur n'a cessé de se présenter à l'humanité depuis la nuit des temps. Il s'agit d'Allah, le seul et unique Dieu, qui a créé les cieux et la terre à partir du néant, et qui a façonné tout ce qu'ils contiennent. La théorie de l'évolution, qui est née au XIXe siècle, nie le fait évident de la création. Elle affirme que l'existence des espèces n'est pas le résultat de la création de Dieu, mais plutôt celui de procédés entièrement gouvernés par le hasard. Le fondateur de cette théorie, Charles Darwin, était un naturaliste amateur. Il exposa sa théorie dans son ouvrage « L'origine des espèces ». Publié en 1859. Le succès du livre fut instantané, bien que sa popularité tienne davantage à ses implications qu'à son contenu scientifique. En effet, les idées de Darwin apportaient un soutien considérable à la philosophie matérialiste qui nie l'existence de Dieu. Karl Marx, le fondateur du matérialisme dialectal, dédia son livre Le Capital à Darwin, à Charles Darwin, de la part d'un admirateur dévoué. La théorie de Darwin prétendait que toutes les espèces descendaient d'un même ancêtre, qui avait évolué à force de petits changements accumulés sur une longue période. Darwin n'apporta pas de preuves solides à ce qu'il avançait. Il reconnaissait d'ailleurs lui-même les faits qui invalidaient sa théorie dans le chapitre intitulé « Les difficultés de la théorie ». En fait, Darwin comptait sur les nouvelles découvertes pour balayer ses faiblesses. Or, il s'avéra que les avancées scientifiques allèrent au contraire dans le sens de la réfutation de ses allégations. Darwin suggéra que toutes les espèces avaient évolué successivement à partir d'un même ancêtre. Mais alors, comment le premier être vivant est-il apparu ? Darwin n'évoqua pas du tout la question dans son ouvrage. En réalité, il n'était même pas conscient que reposait là une des faiblesses de sa théorie. En raison des connaissances scientifiques primaires de l'époque, on supposait que la vie reposait sur une structure très simple. En effet, d'après la théorie de la génération spontanée, très populaire au Moyen Âge, la vie pouvait naître à partir de matières inertes. On pensait alors que les grenouilles naissaient de la boue et les insectes de la moisissure des aliments. De curieuses expériences furent menées afin de prouver ces théories. Des scientifiques déposaient par exemple une poignée de blé sur un chiffon et s'attendaient à voir des souris sortir des grains. On se servit de l'exemple des vers sur la viande afin de prouver que la vie pouvait naître d'une matière inerte. Bien plus tard, on comprit que ces vers provenaient des larves microscopiques laissées sur la viande par les mouches. À l'époque de Darwin, on était persuadé que les microbes pouvaient facilement émaner de matière inerte. 5 ans après la publication de l'Origine des espèces, le célèbre biologiste français Louis Pasteur réfuta scientifiquement les mythes de l'évolution. Après de nombreuses études et recherches, Pasteur aboutit à la conclusion suivante. La matière peut-elle s'organiser seule ? Non. Aujourd'hui, on ne connaît pas de circonstances à partir desquelles on puisse affirmer que des êtres microscopiques sont apparus en leur état sans parents. Le biologiste russe Alexandre Oparine fut le premier évolutionniste à aborder au XXe siècle la question de la première cellule vivante. Son approche visait à expliquer comment la première cellule vivante, le soi-disant ancêtre commun à tous les êtres vivants de la théorie de l'évolution, avait pu apparaître. Dans les années 30, Oparine formula un certain nombre de théories qui intégraient la notion de hasard dans son explication de la naissance de la première cellule vivante. Mais ses efforts aboutirent à un échec et il confessa malheureusement, l'origine de la cellule reste l'aspect le plus trouble de toute la théorie de l'évolution. Les évolutionnistes qui succédèrent à Oparine effectuèrent des expériences afin de conférer une dimension scientifique à l'origine de la vie. La plus célèbre expérimentation fut celle réalisée par le chimiste américain Stanley Miller en 1953. Il obtint quelques molécules organiques simples suite à une réaction gazeuse en employant les gaz qui étaient supposés exister au commencement de l'atmosphère terrestre. À l'époque, cette expérience avait valeur de preuve pour les évolutionnistes. Des expériences ultérieures démontrèrent que les gaz utilisés lors de l'expérience étaient très différents de ceux qui existaient durant les premières ères. Miller convint finalement de l'invalidité de son expérience. Toutes les tentatives qu'ont fait les évolutionnistes au XXe siècle pour prouver l'origine de la vie se sont soldées par des échecs. Jeffrey Bada, professeur de géochimie et partisan de la théorie de l'évolution, admet dans le numéro de février 1998 de Earth, l'un des principaux périodiques de la presse évolutionniste. Aujourd'hui, à la limite du XXIe siècle, nous n'avons toujours pas résolu le problème soulevé au début du XXe siècle. Comment la vie a-t-elle commencé sur Terre? Le point majeur sur lequel bute l'évolution est l'incroyable complexité de la cellule vivante. Tout être sur Terre est fait de cellules d'un centième de millimètre. Certains êtres ne sont composés que d'une seule cellule. Malgré leur petite taille, ces organismes unicellulaires sont remarquablement complexes dans leur structure. Ils disposent notamment de fonctions de survie ou de petits moteurs qui leur permettent de se mouvoir. Les contemporains de Darwin étaient loin de connaître la structure complexe de la cellule. Leur microscope peu performant montrait alors les cellules sous forme de taches centrées. Les puissants microscopes à électrons inventés au milieu du XXe siècle commencent seulement à révéler la complexité et l'organisation de la cellule qui en aucun cas ne peuvent être le fruit du hasard. La cellule vivante est composée de milliers de parties minuscules qui travaillent ensemble harmonieusement. À titre de comparaison, on peut imaginer qu'au sein de la cellule coexistent les centrales électriques, les usines de haute technologie, la base de données, les immenses systèmes de stockage, les raffineries de pointe et la membrane cellulaire apparemment consciente contrôlant ce qui entre et sort de la cellule. La survie de la cellule dépend de l'existence simultanée de toutes ses organelles. Une telle synchronisation ne peut être le fait d'une coïncidence. À ce jour, même le laboratoire le plus sophistiqué n'a pu produire une seule cellule vivante à partir de matière inerte. Il est aujourd'hui reconnu que c'est impossible. C'est pourquoi les expériences allant dans ce sens ont-elles été abandonnées. En dépit de cela, la théorie de l'évolution prétend que ce système, qu'aucune intelligence humaine ou artificielle n'a réussi à reproduire, est le produit du hasard. Sir Frey Hoyle, éminent mathématicien et astronome anglais, explique à travers un exemple pourquoi cela est impossible. Il y a autant de chances que la vie ait émergé par hasard que de chances qu'une tornade, balayant un entrepôt d'un chiffonnier ferrailleur, assemble un Boeing 747 à partir des matériaux qui s'y trouvent. La biochimie moderne a parallèlement permis de révéler la structure très complexe de la molécule d'ADN. Ces découvertes, attribuées à deux scientifiques, James Watson et Francis Crick, en 1955, démontrent que la vie était bien plus compliquée que ce qu'on pouvait imaginer. Francis Crick, également évolutionniste reconnu et couronné d'un prix Nobel pour ses recherches, confessa que la structure de l'ADN n'aurait jamais pu apparaître par hasard. L'ADN est une molécule géante existant dans le noyau de la cellule. Le moindre détail physique et physiologique d'un être vivant est codé dans cette double spirale. Toutes les informations nous concernant, de la couleur de nos yeux à la structure de nos organes internes, en passant par les formes et les fonctions de nos cellules, sont programmées dans les sections appelées gènes, dans l'ADN. Le code ADN est constitué d'une séquence de 4 bases différentes. Si on assimile chacune de ces bases à une lettre, on peut comparer l'ADN à une base de données composée d'un alphabet de 4 lettres, où toute l'information de l'être vivant est stockée. Si nous tentions d'écrire l'information stockée dans l'ADN, il faudrait plusieurs millions de pages, soit 40 fois la taille de l'Encyclopédie Britannica, déjà conséquente en taille. Or, cette masse d'informations est stockée dans un minuscule noyau d'un millième de millimètre. Des calculs montrent qu'une chaîne d'ADN de la taille d'une cuillère à thé aurait la capacité de compiler le contenu de tous les livres jamais écrits. Il est évident que cette étonnante organisation ne peut être le résultat du hasard. La théorie de l'évolution, qui défend l'idée que la vie est le résultat d'une succession de coïncidences et d'événements fortuits, est incapable d'expliquer l'incroyable complexité de l'ADN. L'ADN, la cellule et les êtres vivants sont clairement les produits d'une main parfaite. Ces créatures ont nécessairement un créateur au pouvoir, à la connaissance et à la sagesse éternelle. Les millions d'êtres et d'espèces vivantes sont toutes ces œuvres d'art. Et comme toute œuvre d'art, elles doivent leur création à un artiste, en l'occurrence Allah, le Seigneur de la terre, des cieux et de tout ce qu'ils contiennent. Aujourd'hui, la science infirme le scénario évolutionniste, qui veut que la vie prenne accidentellement naissance de la matière inerte. Il suffit par ailleurs d'observer la nature, pour se rendre compte qu'il n'existe aucun mécanisme qui suive ce supposé processus d'évolution. Pas un seul mécanisme naturel ne transforme une simple cellule en une créature vivante complexe et se perpétue jusqu'à devenir l'ancêtre commun de plusieurs millions d'espèces vivantes différentes. Darwin étaya son mécanisme évolutionniste d'un concept unique, la sélection naturelle. Le titre complet de son livre souligne clairement l'importance qu'il y accordait au sein du mécanisme. L'origine des espèces par voie de sélection naturelle. Cette sélection naturelle repose sur l'idée selon laquelle seuls les individus forts et bien adaptés à leur habitat survivent. Par exemple, dans un troupeau de cerfs menacés par les prédateurs, seuls les plus rapides pourront survivre. Au bout de quelque temps, le troupeau sera uniquement constitué d'éléments forts puisque les plus faibles et les plus lents auront été les proies des carnassiers. Ce mécanisme ne fait cependant pas évoluer le cerf dans la mesure où il ne le transforme pas en un animal d'une autre espèce, comme le cheval par exemple. De fait, la sélection naturelle élimine seulement les individus faibles, infirmes et malades et assure à l'espèce la continuité et la santé, mais en aucun cas elle n'a le pouvoir de la faire évoluer. Darwin, conscient de cette faiblesse, ajoute à ce propos dans son ouvrage. La sélection naturelle ne peut rien sans des variations favorables fortuites. Darwin s'inspira largement de l'un de ses contemporains, le biologiste français Lamarck, pour traiter de l'émergence des traits favorables. Lamarck soutenait en effet que les êtres vivants transmettaient leurs acquis aux générations suivantes. Donc, d'après Lamarck, les girafes descendaient des cerfs car au fil des générations, elles devaient tendre le cou de plus en plus haut pour se nourrir et atteindre les branches de plus en plus élevées. Lamarck était également persuadé que si on coupait les bras des membres d'une même famille sur plusieurs générations, au bout d'un moment, des bébés allaient finir par naître sans bras. Influencé par ces exemples, Darwin, plus audacieux, affirma dans son ouvrage que certains ours, à force de chasser dans l'eau, étaient devenus des baleines. Lamarck et Darwin avaient tous deux tort. Leurs idées étaient parfaitement contraires aux lois fondamentales de la biologie. À leur époque, la génétique, la microbiologie et la biochimie n'existaient pas en tant que branche scientifique. Les lois de l'hérédité n'étaient pas non plus connues. C'est pourquoi Lamarck et Darwin pensaient que les traits héréditaires se transmettaient par le sang. En raison du niveau scientifique limité de l'époque, on ne s'étonna pas du tout des thèses de Darwin. Elles eurent d'ailleurs un impact important dans les cercles scientifiques. Néanmoins, Darwin, inquiet, écrivit dans le chapitre « Difficultés sur la théorie » Si on venait à démontrer l'existence des organes complexes en dehors de toute modification successive, ma théorie s'écroulerait complètement. Les craintes de Darwin étaient fondées, car peu après sa mort, Gregor Mendel, un botaniste autrichien, découvrit les lois de l'hérédité qui infirmèrent les affirmations de Lamarck et Darwin. De plus, le développement de la génétique au début du XXe siècle a prouvé que seuls les gènes étaient transmis aux générations suivantes, et non les traits physiques acquis. L'accumulation de traits acquis au fil des générations et la transformation des espèces n'étaient donc plus plausibles. En d'autres termes, Les variations héréditaires auxquelles Darwin associait la sélection naturelle n'existaient pas. La théorie de l'évolution selon Darwin s'effondra au début du XXe siècle. Les efforts des autres évolutionnistes du XXe siècle vinrent confirmer que la sélection naturelle ne contribuait aucunement à faire évoluer la créature. Le célèbre évolutionniste et paléontologue anglais Colin Paterson l'admit clairement en disant « Personne n'a jamais produit une espèce par les mécanismes de la sélection naturelle. Personne ne s'en est jamais approché. » La plupart des interrogations du néo-darwinisme tournent autour de cette question. La science du XXe siècle a également dévoilé que des systèmes et des organismes extrêmement compliqués, ainsi que des mécanismes complexes, régissent la vie des êtres. En l'absence d'un seul composant, ces systèmes ne fonctionnent pas. Cette caractéristique, connue sous le terme de complexité irréductible de la vie, prouve que ces structures sont nécessairement nées en un seul et même ensemble. Ce fait abolit définitivement l'affirmation évolutionniste selon laquelle les êtres vivants ont évolué progressivement par voie de sélection naturelle et de modification mineure. Puisque la sélection naturelle ne permet pas l'évolution, les évolutionnistes durent opérer un changement fondamental dans leur théorie. Aussi, intégrèrent-ils un nouveau concept à la sélection naturelle appelé la mutation. Les mutations correspondent aux altérations ou distorsions de l'ADN des êtres vivants. Elles résultent principalement d'effets externes, tels qu'une radiation ou une réaction chimique. La théorie de l'évolution soutient aujourd'hui que les êtres vivants se distinguent les uns des autres et se développent suite à des mutations. C'est faux, car les mutations endommagent l'information inscrite dans l'ADN. À ce jour, aucune mutation bénéfique n'a été observée ni dans la nature ni dans les laboratoires. Puisque les mutations n'ajoutent rien à l'information génétique, il est impossible que les êtres acquièrent de nouveaux organes par ce biais. Un reptile n'aura jamais d'ailes et une créature qui n'a pas d'yeux ne pourra jamais en posséder. Pendant des décennies, les évolutionnistes assujettirent des êtres aux effets de la radiation et aux produits chimiques dans le but d'obtenir des mutations favorables. Ils n'obtinrent que des créatures infirmes, déficientes ou stériles. Des expériences innombrables effectuées sur des mouches ont montré que les effets des mutations sont destructeurs, voire fatales et en aucune façon bénéfiques. Les mutations brisent en effet le code parfait d'ADN d'un être vivant et font de lui un monstre de la nature. C'est pourquoi le professeur Richard Dawkins, l'un des défenseurs les plus connus de la théorie de l'évolution aujourd'hui, hésite à répondre quand on lui demande un seul exemple de mutation qui accroît l'information génétique. Professeur Dawkins, pouvez-vous nous donner un exemple de mutation génétique ou de processus évolutionniste où l'information du génome a été augmentée ? La vérité est percutante. La vie suit un schéma si complexe qu'elle n'est pas le fruit du hasard. On ne fait pas une montre mécanique en assemblant aveuglément des engrenages. Seul un habile horloger peut la fabriquer. De même, la vie incarne-t-elle une conception supérieure qui prouve l'existence d'un créateur qui l'a créé à partir de rien? L'univers entier est le résultat d'une création parfaite. La grande sagesse, le pouvoir, le savoir du Créateur sont perceptibles dans tout ce qu'il a créé. La création de l'homme est un véritable miracle que la théorie de l'évolution persiste à nier. C'est lui, Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le Puissant, le Sage. Au XXe siècle, la théorie de l'évolution fut réfutée par la biologie moléculaire, ainsi que par la paléontologie, c'est-à-dire la science des fossiles. En effet, nulle part à ce jour n'ont été déterrés des fragments de fossiles appuyant la thèse de l'évolution. Les fossiles sont ce qu'il nous reste des êtres vivants du passé. Certains spécimens, s'ils ont été rapidement isolés de l'air, restent intacts. Ces restes sont de véritables mines d'informations sur l'histoire de la vie sur Terre. En cela, les fossiles apportent certains éléments de réponse aux questions posées sur les origines de la vie. La théorie de l'évolution prétend que toutes les créatures vivantes descendent d'un ancêtre commun. La diversité des espèces proviendrait de la succession de petits changements sur une très longue période. Les premiers êtres vivants auraient été unicellulaires, puis en l'espace de centaines de millions d'années, ils se seraient transformés en invertébrés marins et en poissons. Ces poissons auraient ensuite émergé de l'eau pour devenir des reptiles qui auraient plus tard donné des oiseaux et des mammifères. Pour vérifier cette affirmation, on est en droit d'imaginer que de nombreuses espèces intermédiaires ont fait le lien entre les différentes espèces. Par exemple, si les reptiles sont devenus des oiseaux, il y a nécessairement eu un nombre considérable de créatures mi-reptiles, mi-oiseaux, aux organes incomplets, à demi-développés. Darwin qualifiait ces créatures hypothétiques de formes transitoires. Il avait besoin, pour appuyer sa théorie, de trouver ce genre de fossiles intermédiaires. Dans l'origine des espèces, il écrivit « Afin de vérifier ma théorie, de nombreuses variétés intermédiaires, rattachant les espèces du même groupe, ont certainement existé. Par conséquent, la preuve de leur existence ne peut être trouvée que dans les fossiles. » Cependant, Darwin était conscient du fait que ces formes intermédiaires hypothétiques n'étaient pas répertoriées chez les fossiles. C'est pourquoi il consacra un chapitre à ce sujet et souleva ces questions troubles. Si les espèces descendent d'autres espèces par fine gradation, pourquoi ne voyons-nous pas partout des formes transitoires? Mais par cette théorie, un grand nombre de formes transitoires ont dû exister. Pourquoi ne les trouvons-nous en grand nombre dans la croûte terrestre? Darwin avait supposé qu'un examen plus précis des fossiles allait permettre de découvrir ces créatures. Par conséquent, les évolutionnistes qui le suivirent examinèrent les couches géologiques aux quatre coins du monde pendant 140 années, à la recherche de ces fossiles manquants. Tous ces efforts se soldèrent par un échec. Les formes transitoires de Darwin restèrent une pure œuvre de son imagination. Le paléontologue anglais Derek Hager admet ce fait bien qu'il soit évolutionniste. Il apparaît que si nous étudions en détail les fossiles, au niveau des ordres ou des espèces, à aucun moment nous ne trouvons trace d'évolution graduelle, mais plutôt l'explosion soudaine d'un groupe aux dépens d'un autre. La strate cambrienne est la plus ancienne strate terrestre où on découvrit des fossiles de créatures vivantes datant d'environ 500 à 530 millions d'années. Dans les strates plus anciennes, on ne trouva pas de traces de fossiles, à l'exception de quelques organismes unicellulaires. En revanche, à l'ère cambrienne, plus de 30 espèces invertébrées telles que les méduses, les étoiles de mer, les trilobites et les escargots apparaissent subitement. Le corps de ces êtres vivants révèle des systèmes complexes comme le système de circulation. L'œil du trilobite, par exemple, est composé de centaines de cellules disposées en nid d'abeilles, chacune ayant un système de double lentille. Cette merveille de la création est le premier œil à être apparu sur Terre. Sa complexité réfute définitivement la thèse de l'évolution avancée par Darwin. Par ailleurs, l'œil en nid d'abeille du trilobite n'a pas changé en l'espace de 530 millions d'années, puisque l'œil des insectes modernes comme les abeilles ou les libellules ont exactement la même structure. Selon la théorie de l'évolution, les espèces sont le résultat de l'évolution de formes préexistantes. Or, on ne connaît aucune autre forme de vie complexe avant les trilobites et les autres espèces de l'ère cambrienne. Les espèces cambriennes sont apparues soudainement sans qu'on ne leur connaisse d'ancêtres. Un défenseur réputé de la théorie de l'évolution, le zoologiste anglais Richard Dawkins, fait la confession suivante à ce sujet. C'est comme si les espèces de l'ère cambrienne s'étaient plantées là, sans aucun historique d'évolution. Cet élément remet certainement en cause la théorie de l'évolution, car Darwin écrivit dans l'Origine des espèces si plusieurs espèces appartenant aux mêmes familles ou genres ont commencé à vivre d'un seul coup, cela serait fatal à la théorie de la descendance par modification progressive au moyen de la sélection naturelle. La rupture fatale que Darwin craignait provient de l'ère cambrienne, au commencement précis de l'histoire des fossiles. Dans toutes les couches de fossiles postérieures à l'ère cambrienne, les espèces vivantes apparaissent toujours abruptement et sous une forme aboutie, qu'il s'agisse de poissons, d'amphibiens, de reptiles, d'oiseaux ou de mammifères, tous déclinés sous des centaines de milliers d'espèces. Pas un de ces groupes ne compte une forme transitoire telle que les évolutionnistes l'imaginent. C'est bien là la preuve que toutes les variétés furent créées séparément par Dieu. Le paléontologiste évolutionniste Mark Zarnecki confesse ce qui suit. Les fossiles empêchent de prouver la théorie de l'évolution. Leur histoire n'a jamais révélé la trace des variantes intermédiaires hypothétiques de Darwin. Au lieu de cela, les espèces apparaissent et disparaissent subitement. Cette anomalie nourrit l'argument créationniste selon lequel les espèces furent créées par Dieu. Par ailleurs, il faut souligner qu'il n'y a aucune différence entre les fossiles datant de plusieurs centaines de millions d'années et leurs descendants modernes. Un requin vieux de 400 millions d'années et un requin moderne ont exactement la même structure. Il en va de même pour la fourmi et la tortue qui vivaient il y a 100 millions d'années, ainsi que pour la fourmi et la tortue moderne. La libellule qui date de 135 millions d'années est l'actuelle libellule. La chauve-souris d'il y a 55 millions d'années est celle d'aujourd'hui. En somme, toutes les espèces vivantes ont été créées par Dieu et n'ont subi aucune sorte d'évolution depuis leur création. D'autre part, on a dit de certains fossiles qu'ils étaient des formes transitoires, alors qu'ils n'en étaient rien. Ce fut précisément le cas du fossile d'un poisson connu sous le nom de coelacanthe. Pendant des années, les évolutionnistes ont proclamé que cette créature avait des caractéristiques similaires à celles des animaux vivant sur Terre. Ils argumentaient en disant qu'elle avait des ébauches de pattes et de poumons. Ces suppositions évolutionnistes furent présentées comme des faits scientifiques. Des dessins représentant l'animal évoluant de l'eau à la terre les appuyaient, et ils parvinrent même à être repris dans les ouvrages scolaires. Quel ne fut pas le choc des évolutionnistes lorsqu'on pêcha un spécimen vivant du coelacanthe soi-disant disparu dans l'océan Indien en 1938. Le poisson n'avait rien de différent des poissons actuels. Contrairement aux affirmations des évolutionnistes, les coelacanthes n'avaient ni pattes ni poumons. Pire encore, Alors qu'on prétendait que le colacanthe était une créature prête à passer du milieu marin au milieu terrestre, ce poisson ne vivait en réalité que dans les profondeurs des océans et n'allait jamais au-delà de 180 mètres de profondeur. L'archéoptérix fut aussi présenté sous la forme transitoire de l'oiseau fossile, créature intermédiaire entre le reptile et l'oiseau. Cependant, on découvrit chez le 7e archéoptérix, mis à jour en 1992, un sternum, c'est-à-dire l'os essentiel aux muscles pour voler. Cela prouve, par conséquent, que l'animal était en réalité un oiseau parfaitement capable de voler. Les arguments portant sur les serres situées sur les ailes de l'archéoptérix étaient non fondés, dans la mesure où ces caractéristiques se retrouvent chez des oiseaux modernes tels que l'oatzin. Quoi ? Stephen Jay Gould, paléontologiste à Harvard et défenseur de la théorie de l'évolution, dut admettre que l'archéoptérix ne pouvait être considéré comme une forme transitoire. En examinant les structures des différents groupes animaux, nous pouvons constater qu'aucun processus d'évolution n'a pu se produire. Il est notamment impossible qu'un poisson disposant d'un système respiratoire, d'un système excrétoire, de muscles et de métabolisme propre à la vie marine ait pu se transformer en animal terrestre dès sa sortie du milieu aquatique. Les créatures terrestres sont également très différentes les unes des autres. Les évolutionnistes avancent que les oiseaux descendent des reptiles suite à des mutations fortes. Or, les reptiles sont des animaux à sang froid, tandis que les oiseaux ont le sang chaud. Le corps des oiseaux est couvert de plumes, tandis que les reptiles sont couverts d'écailles. De plus, les oiseaux disposent d'un système pulmonaire particulier qui ne ressemble aucunement à celui des animaux terrestres. La thèse de l'évolution ne peut d'ailleurs pas non plus expliquer les propriétés aérodynamiques de leurs ailes. Il est impossible que les ailes se soient développées graduellement, parce qu'une aile à demi développée n'est pas un avantage, mais plutôt un inconvénient fatal. Les partisans de l'évolution prétendent également que les reptiles se sont transformés en mammifères, alors qu'ils sont bien distincts les uns des autres. Les reptiles pondent des œufs, alors que les mammifères donnent naissance à leur progéniture. Par ailleurs, le corps des mammifères est couvert de fourrure et non d'écailles. L'origine du mécanisme de lactation spécifique aux mammifères reste inexpliquée par les évolutionnistes. Face à ces réalités concernant le monde des fossiles, les évolutionnistes se concentrèrent sur l'évolution de l'homme, descendant du singe. À ce jour, on connaît 600 500 espèces de singes, pour la plupart éteintes. Les crânes de ces singes disparus, petits et grands, constituèrent une grande source d'inspiration pour l'imagination des évolutionnistes. En classant ces crânes du plus petit au plus grand, et en y ajoutant ceux de races humaines disparues, les évolutionnistes ont réussi à concocter le scénario de l'évolution humaine. Le rôle le plus important est octroyé à l'espèce des Australopithèques, dont le premier fossile fut découvert en 1924 par le paléontologue Raymond Dar. Depuis, les évolutionnistes argumentent que cette espèce de singe dont le nom signifie « le singe du sud » est une créature humaine. Or, en comparant les squelettes des australopithèques et ceux des chimpanzés, on ne remarque pas de différence flagrante. Les évolutionnistes émirent alors l'hypothèse que les australopithèques marchaient debout sur leurs deux pattes, contrairement aux autres singes. Malheureusement, deux anatomistes reconnus mondialement, Lord Solly Zuckerman et le professeur Charles Oxnard, réfutèrent cette allégation. Autrement dit, les évolutionnistes avançaient que l'australopithèque était l'ancêtre de l'homme, alors qu'il ne s'agissait que d'une espèce de singe disparu. Par ailleurs, les fossiles classifiés par les évolutionnistes dans les catégories Homo erectus, Homo ergaster ou Homo sapiens sont en réalité différentes races humaines. L'inspection de ces fossiles permet de voir que leurs squelettes sont pratiquement les mêmes que ceux des hommes d'aujourd'hui. Les quelques différences structurelles se situent au niveau du crâne. Le paléontologiste évolutionniste Richard Leakey admet que la différence entre le crâne de l'Homo erectus et celui de l'homme moderne réside dans la race. Ces différences ne sont pas plus prononcées que celles que nous trouvons actuellement entre les hommes des différentes zones géographiques. Contre ces faits scientifiques, la propagande reste la seule défense dont disposent désormais les évolutionnistes. Le scénario non fondé de l'évolution humaine est imposé au public sous forme de dessins imaginaires dans les publications évolutionnistes. Ces croquis, représentant des créatures au corps couvert de poils et aux caractéristiques simiennes, sont agrémentés de notes humaines. L'impression rendue est celle d'une créature mi-homme, mi-singe. De temps à autre, les dessins proposent des scènes de vie sociale de ces créatures. Ils sont présentés dans le but d'inscrire le scénario de l'évolution humaine dans le subconscient de la société. Même les plus célèbres revues scientifiques reprennent ces reconstitutions et ces arbres généalogiques imaginaires dans leurs pages. L'imagination des évolutionnistes ne se limite pas à des dessins et des modèles fictifs. Ils vont en effet jusqu'à créer des films où des créatures mi-hommes, mi-singes jouent. Mais tout cela n'est que pure déception. Les rares preuves disponibles ne sont rien d'autre que quelques fragments de crâne ou d'os. On ne peut pas déterminer le type de cheveux, de peau, ni les autres caractéristiques faciales à partir de simples restes d'eau. En revanche, les évolutionnistes n'hésitent pas à façonner des visages à leur manière, alors qu'il n'en reste aucune trace sur les fossiles, afin de servir leurs objectifs et appuyer leurs arguments. Ernest Houghton de l'Université d'Harvard affirme que ces dessins n'ont aucune valeur scientifique. On peut modeler aussi facilement sur un crâne néandertalien les caractéristiques d'un chimpanzé que les traits d'un philosophe. Ces reconstitutions des supposés anciens types d'hommes n'ont aucune valeur scientifique et ont tendance à tromper le public. Les évolutionnistes poussent si loin leur manière de faire qu'ils peuvent décliner le même crâne de plusieurs façons. Le fameux fossile Cygentrope ne le fut-il pas sous trois formes? C'est dire l'assiduité des évolutionnistes à créer de faux modèles. En plus de produire des dessins et des modèles, les évolutionnistes n'hésitent pas à se lancer parfois dans les contrefaçons. La plus célèbre d'entre elles est celle du fossile Piltdown, créé en 1912 en Angleterre par l'évolutionniste Charles Dawson. Ce fossile fut présenté comme le plus important spécimen transitoire entre l'homme et le singe. Il fut d'ailleurs exposé dans les musées pendant plus de 30 ans. Quand les experts examinèrent le fossile en 1949, ils découvrirent qu'il s'agissait de la mâchoire d'un orang-outan fixée sur un crâne humain. En 1922, les évolutionnistes avaient extrapolé l'homme du Nebraska à partir d'une dent retrouvée. Ils ne mirent pas de lui octroyer un nom ostentatoire à consonance latine, Hesperopithecus Harold Cookie, ni d'en déduire des croquis. Rapidement, on apprit que la dent à l'origine de ce tapage n'était autre qu'une dent de sanglier. De nombreux autres fossiles présentés comme des preuves par les évolutionnistes s'avérèrent être faux. L'homme de Néandertal fut avancé comme preuve en 1856 et réfuté en 1960. L'homme de Piltdown fut avancé comme preuve en 1912 et réfuté en 1953. Le Cygentrope fut avancé comme preuve en 1959 et réfuté en 1960. Le Ramapithèque fut avancé comme preuve en 1964 et réfuté en 1979. Malgré cela, ces crânes sont encore présentés au public à travers les médias et certains ouvrages scolaires en tant que faits scientifiques. Tant et si bien que dans de nombreux pays, la majorité des gens et des élèves supposent que l'évolution est un fait prouvé. En fait, la vérité que les évolutionnistes tentent de nier et de cacher est à portée de tous. Les espèces sont apparues de manière subite et parfaite sur Terre. Elles ont été créées. Le Créateur divin de la nature entière a créé toutes les espèces avec leurs traits parfaits et uniques. Ce Créateur divin est Dieu, le seul et unique. Il est le Seigneur des cieux, de la terre, et tout ce qu'ils contiennent.